Laure Dominique Agnel, bonjour.
Bonjour.
Que vouliez-vous apporter de nouveau sur Alexandra Davinel, à qui une dizaine de biographies ont déjà été consacrées depuis les années 70?
Un peu moins, une demi-douzaine. Ce que je voulais apporter de nouveau, c'est la relation avec son mari, ce couple extraordinaire qu'elle a formé pendant 40 ans, alors qu'ils n'ont pratiquement jamais vécu ensemble. Et je trouvais que ce Philippe Nel avait été un peu oublié, alors que cette relation est vraiment l'axe de la vie d'Alexandra. Philippe est une sorte de repère, un amer, comme diraient les marins, un point fixe. Je crois qu'il lui a permis de ne pas se perdre dans tous les voyages qu'elle a fait.
Vous êtes basé donc sur leur correspondance, une correspondance très volumineuse, puisqu'en fait, quand elle part faire son grand voyage en Asie en 1911, un voyage qui au départ devait durer quelques mois, ce voyage va finalement durer 14 ans. Donc ils ont échangé des milliers de lettres.
Des milliers de lettres, c'est une correspondance extrêmement importante. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il reste très peu de lettres de Philippe. Mais lui avait conservé toutes les lettres d'Alexandra. C'était une sorte de journal de voyage finalement, et c'était des lettres manuscrites qui faisaient des dizaines de pages. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Alexandra racontait ses voyages à Philippe, et je pense vraiment que c'était comme une sorte de fil d'Ariane qui lui a permis de sortir parfois du labyrinthe, parce qu'elle a vécu des choses quand même perturbantes et extraordinaires.
Oui, elle lui raconte son arrivée en Inde, son installation dans un ermitage à 4000 mètres d'altitude sur les contreforts de l'Himalaya, toutes ses pérégrinations ensuite en Asie et évidemment son voyage à Lhasa en 1924. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces lettres, qu'elle n'est pas elle-même écrit dans les ouvrages qu'elle a publiés?
Ces lettres racontent la véritable Alexandra. Dans les livres qu'elle a publiés, une trentaine de livres, bon, elle prend un peu la pause quelquefois. Certains livres sont extrêmement érudits aussi. Elle a écrit beaucoup sur le bouddhisme. Et dans la correspondance, elle se montre telle qu'elle est. Elle livre ses doutes, sa fatigue, ses maladies. Il y a une chose qui me touche beaucoup, par exemple, quand elle est dans sa caverne à 4000 mètres d'altitude. Elle dit... J'y arrive pas, j'ai beau méditer, j'ai beau avoir mon maître à côté de moi, je reste une parisienne dilettante. Et ça me touche beaucoup, ça on ne le verra jamais dans les autres livres. À Philippe, elle se confie telle qu'elle est.
On comprend aussi par exemple à travers ses lettres à quel point le fait d'avoir été une jeune épouse trompée à peine le mariage consommé a constitué pour elle une blessure profonde et l'a peut-être aussi poussée à partir.
Certainement. Elle découvre, après s'être mariée, à 36 ans, qu'elle n'est pas la seule, en effet.
Et elle s'en va, après 4 ans de dépression.
Philippe devait en avoir assez au bout d'un moment. Il lui dit, écoute, tu pourrais faire peut-être un petit voyage, ça te changerait les idées. Elle est très contente que Philippe lui propose cela. Et en effet, elle pense partir pour un an et demi pour parfaire ses études et elle va rester absente 14 ans et surtout elle va revenir avec un jeune lama, Yongden, qui l'a accompagnée pendant ses 14 ans de voyage et qu'elle va adopter.
Qu'elle adopte, oui, comme son fils. Alors, on connaît l'infatigable voyageuse et vous profitez-vous de cet ouvrage aussi pour éclairer des pans moins connus de son histoire, comme ce passé de cantatrice, puisque toute jeune, elle devient cantatrice à l'opéra.
Elle a été cantatrice pendant presque 10 ans. Elle avait une très jolie voix, c'était une très bonne pianiste aussi. Et pour gagner sa vie, ce qui était très important pour elle, elle se lance dans l'opéra. Elle a chanté sur toutes les scènes françaises. Elle racontait quelquefois qu'elle allait de Trou-les-Bains à Purée-les-Eaux. Bon, les débuts étaient difficiles avec un public très clairsemé. Elle est allée chanter à l'opéra de Hanoï. Et elle se trouve en 1900 directrice de l'opéra de Tunis. C'est là qu'elle rencontre Philippe.
Alexandra Davinel, la cantatrice, donc. Également, Alexandra Davinel, féministe.
En particulier, elle a été journaliste pour le journal féministe La Fronde. J'ai retrouvé les articles d'Alexandra et c'était très émouvant pour moi de voir que dès le début du XXe siècle, Alexandra et les féministes prônaient le travail des femmes, la contraception, le droit à l'avortement. Elle ne cessait de dire que les femmes ne devaient pas dépendre d'un mari ou d'un père. Petite parenthèse, je voudrais aussi démentir une rumeur. Ce n'est pas Philippe Nel qui a payé les voyages d'Alexandra, comme on le raconte souvent. C'est elle, elle est héritière de ses parents en tant que fille unique. Elle travaillait comme journaliste, elle a écrit des dizaines et des dizaines d'articles. Et quand elle voyageait, elle continuait à envoyer des articles au Mercure de France, à la Société Nouvelle, etc. Donc elle était totalement indépendante financièrement, mais elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Les femmes n'avaient pas de compte en banque. banque au début du XXe siècle. Et elle était obligée de passer par son mari qui gérait ses biens.
Alors, on revient sur la correspondance. Vous dites qu'il y a assez peu de lettres de Philippe Nel qui ont résisté au temps. Il y en a une quand même qui fait l'effet d'une bombe pour Alexandra David Nel au moment où elle s'apprête à rentrer au domicile conjugal en emmenant le jeune lama qui la suit depuis des années. Et là, il lui dit non.
Elle reçoit en effet cette lettre de rupture. Lui dit non, là c'est trop, tu es absente pendant 14 ans, en plus tu reviens avec un jeune homme à qui tu veux donner mon nom, là c'est pas possible. Mais jusqu'au bout quand même, quand elle prend le bateau de Ceylan et qu'elle arrive au Havre en 1925, elle espère que Philippe va l'attendre sur le quai, mais non, il n'y a personne.
Bon, après, les relations entre les deux époux vont s'améliorer, même s'ils ne vivent plus au même endroit. Et dans leurs lettres, c'est une histoire d'amour hors du commun qui aura duré toujours.
C'est très important, c'est une histoire, une belle histoire d'amour. En fait, à la fin de sa vie, Alexandra avait fait agrandir un portrait de Philippe pour le mettre à côté de son lit. Et elle disait tout le temps, c'était mon meilleur ami et le meilleur des maris. Et finalement, je crois que c'est le grand amour d'une féministe, son seul grand amour. Je suis fascinée par ce couple, c'est pour ça que j'ai vraiment axé mon livre autour de cette histoire. Ce couple qui finalement s'est aimé toute une vie, s'est écrit tous les jours pendant 40 ans, mais qui a réussi à laisser l'autre vivre ses rêves.
Laure Dominique Agnel, merci.